a la chance aujourd'hui de vous raconter une histoire. C'est la belle histoire d'un homme blond, à cheveux longs, qui rencontre un homme qui, à l'époque, n'était pas encore tout à fait chauve. Personne n'est chaud. Et qui commence quasiment un petit peu en même temps et qui vont l'un illustrer les romans de l'autre pendant quelques années et encore aujourd'hui. Puisqu'il y a une illustration qui va devenir célèbre d'un roman d'ailleurs, d'un livre d'ailleurs date qui vient tout juste.
Le dernier ouvrage en date,
il s'appelle La Troisième Lame, aux excellentes éditions actuelles. Voilà, c'est pour la promo. simplement. Alors peut-être. On va resituer le contexte. Vous avez débuté quasiment en même temps. C'était les années 90, le début. Rappelez-nous juste vos débuts, puis votre rencontre, tous les deux.
Je vais être obligé de passer la parole à Gilles, parce que comme il est beaucoup plus âgé que moi, il a débuté avant moi. Il a débuté avant moi.
Non, je pense que tu avais commencé à remplir tes petits cahiers avant moi.
Alors, après les couvertures. Quand est-ce que tu commences ta première course professionnelle, toi, Gilles? La première fois, on t'a donné de l'argent.
Je pense que c'était pour autre chose, mais ouais. Ça, on en parlait pas. Non, moi, le premier contact que j'ai eu avec les couvertures, d'une façon commande illustrateur, c'était pour Claude Ekel. En fait, il y avait eu deux couvertures, en fait, avant et après. C'était avec le fleuve noir, en fait. Il neigeait ce jour-là. Et j'étais passé au fleuve noir, je me souviens, poser une carte de visite d'une éditrice qui s'appelle Nicole Hubert, qui était quelqu'un de formidable, mais je m'en suis aperçu 25 ans après, en ayant vu les autres éditeurs du fleuve noir, quoi. Du coup, on se dit que bah, finalement, c'était pas mal les premières années. Et en fait, elle m'a appelé un an après, en fait, pour la première couverture, donc il ne faut pas désespérer. Et donc, c'était Claude Ekel. Et après, il y a eu Pierre Barbet. Et après, donc, elle m'appelle en me disant, moi, je me souviens, j'étais en banlieue sud, je me souviens quasiment parfaitement de ce jour-là, quoi, en fait. L'appel pour me dire on a un manuscrit pour à faire illustrer. Et puis dans la deuxième partie de la phrase, elle m'annonce que c'était un 4 tomes. Donc déjà, bon, ouais, j'étais quand même juste déjà content pour ça. Et puis voilà, puis après donc je reçois le manuscrit, je lis ce truc qui était donc La Bohème est livrée, avec Mad et toute la clique. Voilà, on est dedans.
Je te crois.
Et donc avec ce manuscrit écrit à Heyerdahl, voilà, avec nom d'auteur. Et donc voilà, ma première découverte avec le texte, ça a été ça, et ça a été une bonne claque. Parce que, avant d'illustrer, en fait, j'avais lu quasiment que du, je dirais que de la SF anglo-saxonne. Et ma découverte avec les textes français avait déjà été un petit peu... C'était quand même un bon décalage au départ, parce que on le sait, quoi, c'était pas le même type de littérature quand même, le même type d'écriture. Et avec La Bohème est livrée, en fait, j'ai vraiment rencontré le texte que vous connaissez tous, et donc forcément c'était quand même une sacrée découverte, surtout qu'à l'époque, on avait quoi ?
Ouais, t'es jeune.
Ouais. À 23 ans, t'as l'impression qu'il parle de toi, quoi. Oui, moi j'étais jeune, j'avais 23 ans, quoi. Ça, donc,
oui, moi j'étais un peu plus jeune que ça, mais de 10 ans de plus.
Bon, peut-être pas tant non plus. Mais et puis voilà, du coup ça s'est fait comme ça. J'ai fait la première couverture, qui était, c'est pas celle-ci, mais c'était d'ailleurs un hommage un peu à. Si c'est la seconde, c'était un hommage à. Ça c'est pas moi. Mais il y avait du Sud Mac dans l'air, quoi, en fait. Ça c'est les séries suivantes. Regardez, c'était les deux bios. Enfin, bon. Voilà, c'est aussi.
Oui, attendez, alors, notez bien. Il répète par ma bouche avec mon frangin dans le coin. Vous ne trouvez pas qu'il a un air d'ensemblance, le frangin dans le coin là.
Alors, jumeau, du coup.
Essayez d'enlever les cheveux. Bah, c'est son frangin jumeau. J'ai toujours adoré avec mon frangin dans le coin.
Bah, Ouais, ça me permettait de faire des autoportraits sans être narcissique.
Et comment vous vous rencontrez tous les deux?
Ah ben, comment on se rencontre?
C'est quoi la raconte-nous votre première fois.
La première rencontre, c'est ça va être très drôle. Moi, je reçois un coup de téléphone. Le coup de téléphone, bonjour, je m'appelle Gilles Francescano, vous ne savez sûrement pas qui je suis. Si, je sais parfaitement qui tu es.
C'est vrai?
Ouais. Et Gilles Francescano sur la couverture, je suis désolé, quand j'ai reçu les coups, je m'attendais au pire, parce qu'à l'époque, chez Fleuve Noir, non, c'est pas par rapport à Gilles, mais chez Fleuve Noir, les couvertures, c'était très très aléatoire, tu vois. Et de recevoir, de me retrouver avec des illustrations qui me plaisaient, c'était quand même très important. Et Gilles donc m'appelle et il était sur un salon à Lyon de quoi, du bodybuilding.
Allez, donc, je faisais pas mal de démonstrations d'aérographie.
Ah voilà, c'est ça, c'était une démonstration d'aérographie.
Et je lui dis, bah, on pouvait se voir parce que j'étais à Lyon, moi j'habitais encore à Paris à l'époque. Et regarde, elle était déjà lyonnais, depuis fort longtemps d'ailleurs.
Et non.
Et puis voilà. Et puis
je suis descendu en voiture le voir sur le stand. Et puis je l'ai ramené à la maison et puis on a bu toute la nuit. Que des choses saines. Hein.
En fait,
je l'ai fait découvrir comme une art.
On va aller boire un verre à l'extérieur, tu vois, en me disant bon, ben, on va fonctionner normalement, on va aller boire un verre dehors et puis on va parler et puis je vais rentrer sagement. Il me dit mais non, ici tu viens dormir à la maison déjà. Ah ok. Bon. Et puis en fait, bon, on n'a pas tellement dormi et puis là, c'est un petit temps mort quoi. Le lendemain au salon, ça a été épique. Du coup, moi, je continue une journée
c'est
de
ça, boulot. C'est ça, ouais. Tu vois de photos de la démonstration du lendemain
J'étais pas tellement sur le stand. Quoi, en fait. Il m'a fait découvrir le communard. Alors, pour ceux de la région qui connaissent bien, vous comprenez. Et une nuit au communard,
Mais l'esprit de la commune est en
ça
nous.
A été communard et histrion, en fait. Ouais. Parce que du coup, voilà, c'était une nuit de discussion autour de l'histrion.
D'accord. Alors, ça, c'est. Vous vous rencontrez une fois que. Une fois que la bohème est livrée
En fait, il y avait le premier tome qui était sorti.
Ouais.
Et moi, j'avais fait les illustrations forcément un petit peu en amont, avant que lui ne les voie, forcément. Et je crois que voilà, le premier tome avait dû sortir ou à peine le deuxième tome. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas des gens pour les chemipiques, parce que sur le troisième et quatrième, j'ai inversé les couvertures. Et il a cru que c'était l'éditeur qui avait inversé les couvertures.
Oui, c'est donc le premier ou le deuxième. Je pense qu'il y en avait déjà deux en fait. Moi j'avais vu les deux couvertures. Je suis pas sûr que le deuxième était déjà sorti, mais j'avais vu la deuxième couverture aussi. Nous étions jeunes, nous étions beaux, nous aimions les chats, les femmes et les.
Ouais. Ça, du coup, alors là, vous rencontrez. C'est vous qui allez voir l'éditrice en disant maintenant on aimerait travailler ensemble. Ou au contraire, Fleuve Noir, du coup, vous accole ensemble pour les romans suivants.
Alors, une chose est sûre, c'est que j'ai jamais eu besoin de demander à Nicole Hubert que Gilles continue à être mon illustrateur. Je crois que pour elle comme pour nous, il était évident que ça collait ensemble. Quoi. Donc, je ne sais pas si toi, tu as eu, eu besoin de demander.
Par rapport tant que Nicole Hubert était là, effectivement, c'était ça le.
Ah oui, par contre, après,
elle avait compris qu'il y avait un truc qui se passait, puisque bon, elle te l'avait dit par rapport au ventre même, il y avait un truc qui était pour elle était flagrant, quoi, qui fonctionnait. Quoi.
J'ai eu les plus. La Bohème est livrée, donc mon premier roman, en 4 tomes pourtant, ça a été les plus fortes ventes de la collection Anticipation depuis X milliers d'années, dans 10 ans à peine. Quoi. Et Nicole m'a dit très clairement, comme ça, en plus c'est en 4 tomes, c'est pas normal qu'on atteigne des chiffres comme ça, même si ton bouquin est bon. Donc, remercie Gilles.
Ouais.
C'est pas très compliqué.
Je crois que c'est la seule fois, quasiment. C'est quasiment. On est en train de boucler la boucle là, en fait, avec la troisième là, mais je crois que c'est les seules deux fois où un éditeur me parle de la couverture, en fait.
Comment ça.
Oui, vas-y. Mais du coup, voilà, après les interruptions, ça a été quand il y a eu des changements de collection. En fait.
Ouais.
La première interruption, ça a été avec Philippe. Ça a clashé un petit peu parce que on était d'accord ni l'un ni l'autre quoi, en fait, avec le choix.
Enfin, il nous a fait un bébé d'ordre.
C'était Jean-Yves Kervéban qui avait été sollicité, c'était pour le choix du bébé. Et ça a c'est vrai que moi, j'avais pas compris à l'époque bah, qu'il fallait se battre encore. Mais bon, j'ai pas compris.
Vous allez faire combien de... Il y a combien de titres
ça, t'aurais pu me dire que t'allais me poser la question.
Ah, pardon. Non, mais il y en a 7-8. Globalement, comment est-ce que vous... En fait, l'idée, c'est...
Ça a été le 9.
La Mittal, la Bohème, Domo-Moisis, Parleur, plus les rééditions, plus les 4 tomes qui passent en un top, ouais. J'ai lu.
Comment ça se passe à ce moment-là? Vous discutez toujours des couvertures, vous discutez des couvertures, parce que sur la première, vous ne connaissiez pas. Comment la relation, là, pour le coup, de travail se passe?
Attention, on va horrifier tout le monde, vous êtes prêts? La relation, c'est une relation de confiance absolue. C'est, j'ai eu la chance de voir Gilles travailler sur la couverture, la première couverture de Demain l'Oasis, qui m'a fait, qui est pour moi d'une beauté magnifique et qui dépeint vraiment, qui illustre vraiment le roman. Sinon, la confiance est absolue. C'est-à-dire, ben, Gilles fait comme il veut, comme il sent. Et au bout du compte, je reçois un cadeau, je prends une veste, une claque.
C'est ça, c'est un très grand format.
Et c'est la seule fois où j'ai vu une illustration avant qu'elle soit terminée. Et on n'en a même pas parlé d'ailleurs, parce qu'on a parlé d'autre chose. À l'époque, on essayait de faire une BD.
Ouais.
Et donc, c'est la seule fois où j'ai vu le travail et où. Mais je ne me suis même pas exprimé. La confiance, elle est dès le départ. Et elle continue. Alors que je suis extrêmement papillon sur mes couvertures. S'il y a eu une autre, Chronique d'un rêve enclavé chez Au Diable Vauvert, où là je t'ai carrément demandé de mettre ton triptyque.
Ah oui, pour Diable Vauvert.
Voilà, mais c'est tout. Après, Gilles est malheureusement lui obligé de lire les livres avant de les illustrer. Donc il va nous en parler.
Est-ce que ça veut dire que. Quand toi tu écris, tu as les images de Gilles dans la tête. Bon. Est-ce que ça veut dire que toi, quand tu fais une couverture pour Ayordan, tu penses à l'auteur, au texte, et en disant est-ce que ça va lui plaire, avec une pression supplémentaire? Comment ça se passe? J'essaie d'explorer un peu le lien pro entre l'illustrateur et
l'auteur. Je ne peux pas te. Non, mais là, tu
merci
pas,
d'être
tu
venu.
Non, mais je peux pas parler de lien pro. Là, moi, sur globalement, sur les couvertures, c'est vrai que l'auteur, c'est le premier gars à qui j'ai envie de faire plaisir. Mais bon, maintenant, Yardin, c'est différent. Tu vois. À partir de cette fameuse nuit de communeur, moi, il me faisait pleurer en lisant les livres. Je me souviens parfaitement de Demain Oasis quand j'ai fermé le manuscrit. Remettre les feuilles en ordre, tu vois, et je l'ai appelé d'ailleurs ce jour-là, je crois.
Oui, c'est l'une des premières fois que tu as traité de ça.
Et ouais, je crois, ouais. Donc voilà, après, bon, c'est au-delà, quoi, tu vois. Moi, 25 ans après, tu m'as fait un cadeau, enfin, l'éditeur d'ActuSF m'a fait un cadeau en me demandant la troisième, je te jure. Enfin, bref. Ouais,
on va la voir
après. Après sur les crayonnés, ouais, c'est vrai qu'après on se croisait régulièrement quand même, et du coup je lui montrais des petits crayonnés, mais je fais des crayonnés en pâte de mouche, quoi, donc je vois.
Oui, alors c'est très très long parce qu'il faut d'abord faut attraper les mouches, enlever les pattes.
Voilà, bon, c'était, mais bon, je lui montre un crayonné, de toute façon je sais pertinemment qu'il ne comprend rien à ce que je vais faire finalement. Donc ouais, c'est chouette, et puis je sais bien qu'on va boire un coup. Puis, ouais.
Et toi quand tu écris. Et tu sais que Gilles va. Enfin, on est toujours dans le début là, dans cette période où c'est presque un réflexe.
Ça a été extrêmement évident pour moi dans L'Histrion et Soxomorphose. C'était évident que j'avais le personnage de L'Histrion.
Il y avait ma carte de visite aussi. Ma première carte, c'était un arlequin.
Ouais, je voyais une illustration de Gilles. Je voyais.
Tu voyais le style?
Je voyais ce qu'il allait faire de ce personnage face. Enfin, je le voyais. Non, d'ailleurs, j'ai
Biffes. Du coup,
Biffes aussi, oui. du coup, je ne voyais pas, mais je le concevais comme ça. Il y en a un où j'ai écrit avec Francescano dans la tête et que tu n'as finalement pas illustré. Yep, je sais, c'est Sibione.
Sibione.
Le premier qui est hors fleuve noir, donc parce que Sibione, c'est une petite série que j'ai faite en quatre romans. Gilles a illustré les deux premiers qui sont parus le fleuve noir, et ensuite la poursuite, les deux derniers ont été publiés chez J'ai lu. Enfin, les deux autres ont aussi été publiés chez J'ai lu, mais les deux derniers étaient publiés chez J'ai lu. Et c'est un des moments historiques de notre histoire. C'est le moment où je sais pas pourquoi, c'est Barion qui pète un câble.
Non, c'est par là.
C'est après qu'il.
Ça se passait bien, je t'ai envoyé l'original.
Ah, mais du coup, t'as vu le chroniqueur.
Non, ouais, il y a des choses comme ça.
Et mais j'avais écrit, moi, avec voilà, l'imagerie. L'image, toi, ça je l'ai en grand, ça. Voilà. Gilles m'a fait un cadeau. J'ai m'en a fait plein. Hein, mais j'ai l'illustration, Gilles me l'a offerte. Et là on ne se rend pas compte, c'est vraiment un truc qui.
Le format original d'une illustration.
Alors, celle-ci, c'est 50-70, quoi, le format raisin sur un papier chaud rameur fait à l'aéro.
Vous travaillez toujours dans ces formats
plus grands? Je travaille une fois beaucoup plus grand, ouais. Ça m'est arrivé de travailler plus petit et maintenant je travaille plus que sur Photoshop. Ce qui est finalement pratique quand on se pète la main. Quoi, parce que bon, même les raccourcis clavier, c'est quand même possible. Le marquer à l'aéro, ça aurait été vraiment galère. Mais j'ai fait des illustrations pour. Demain une oasis, par exemple, celui qu'on a vu, c'est un grand format, il doit faire 1m20 par 80 cm.
Mais c'est un raisin en fait.
Non, c'est plus grand.
C'est pas plus grand, ouais.
Comment?
C'est pas frustrant, entre guillemets, en termes de
Non, parce que le livre, moi, c'est quand même, c'est ce que j'ai vraiment voulu faire, et puis j'avais, je crois, pas plus grande fierté que de passer au supermarché et puis avoir les couvertures, quoi. Donc pour moi, c'était au contraire, c'était ça l'objet fini, quoi. Garder les images chez moi, c'était juste n'importe quoi. D'ailleurs, ça a fait l'objet souvent de discussions où je disais, moi, je suis pas un artiste, je suis un illustrateur, et bon, je fais ça, des discussions à la con. Enfin bon. Parce que par exemple, à un moment donné, je ne comprenais pas que le nom de mes illustrations soit le nom des livres, en fait. Et pour moi, c'était juste évident que l'illustration, c'était le livre, et c'était indissociable, en fait. Et pas me considérer comme, je dirais, un petit peu comme la pose de Midinette, de Swinmack, par exemple, qui aujourd'hui dit « je ne suis pas un illustrateur, c'était l'éditeur qui venait ». J'arriverai pas à refaire l'accent polonais avec tout le respect que je lui dois, mais je trouve que là, c'est vraiment n'importe quoi. Quand il dit c'est l'éditeur qui vient chez moi, qui choisit une partie de l'image. Si, l'éditeur il a fait ça à un moment donné quand Soulmac était malade pour produire, quoi, en fait. Mais Soulmac est un illustrateur. Quand il dit ça, j'ai juste envie, c'est de l'étrangler en lui disant ben, avec cette attitude-là, tu as fait croire à des générations que l'illustration était un vrai métier. Alors que son cas, ou le cas d'un Branton, ou le cas d'un Nicolet, sont finalement des exceptions, quoi, en fait. Et illustrateur de couverture, c'est pas un métier. Il n'y a rien de défini, quoi. Et aujourd'hui, encore moins qu'avant.
Je vais vous dire quelque chose. Ce choix très étonnant de la couverture avec le triangle, le coupé, le courant, c'est comment ça a été choisi?
Alors ça, je pense qu'à l'époque, ça c'est quand Philippe Huppe est arrivé au fleuve noir, donc il a voulu un peu ratisser. Et je pense qu'à l'époque, ils avaient juste des sous. Quoi. Parce que la couverture, moi j'ai. Bon, c'était. Le livre, moi je le trouve magnifique, hein, avec l'emporte-pièce triangulaire. Parce que la couverture, c'est une couverture avec un film bleu. Et donc elle s'ouvre. Enfin, je ne sais pas si vous le connaissez, connaissez cette collection-là. La première carte, la première couverture, en fait, est trouée. Et ce que l'on voit en couleur, donc, c'est une carte pleine page en deuxième couverture, et où on a une carte postale complète, en fait. C'est pour ça que récemment, par exemple, lors de l'exposition avec Alexis Briclot, là, que j'ai monté la semaine passée, Alexis Briclot, donc illustrateur que j'admire quand même pas mal, mais vu qu'on a un petit peu une petite différence d'âge, on dira, voire de génération, il m'expliquait qu'il allait en supermarché arracher mes couvertures. Quoi. Parce que du coup, la deuxième page, c'est une vraie carte postale complète. Et ça, je trouvais que le livre était beau. Mais par contre, tu le retires une première fois de la bibliothèque, si tu le remets mal, il est ruiné. Mais je pense que ouais, ils avaient juste des sous à l'époque. Et que...
Ouais, c'était très concept quand même.
C'est unique, hein. C'est bizarre. Enfin, pour des livres très populaires.
Je ne sais plus qui est. Il y a un mec qui a une idée, c'est un maquettiste qu'ils avaient embauché. Ouais. Et qu'ils ont viré après. Hein.
Il y a dans les illustrations, une évolution. Mais comme dans tes romans, comment s'accompagne votre évolution en parallèle? Parce que entre Demain une oasis et le suicide, l'Histrion, évidemment je n'ai pas mis en grand, mais il y a une évolution graphique, technique. Comment est-ce que vous vous accompagnez? Vous êtes toujours raccord quand tu écris l'Histrion c'est toujours la bonne illustration? Toi, quand tu lis l'Histrion, tu as toujours envie de le faire, tu vois ce que je veux dire?
Et le problème, à part répondre oui, c'est très difficile.
Non, moi l'évolution, parce que là c'est sur des périodes quand même assez courtes, hein, donc je peux pas te dire que j'ai beaucoup changé en termes de dessin. Moi ce qu'il faut comprendre un tout petit peu, tu vois, dans mon dessin, c'est que j'ai fait quoi, 2 ans d'école, quoi, tu vois, donc du coup j'ai appris à dessiner en faisant les couvertures quasiment. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais... Et du coup, mes couvertures changent, je pense, au fil de cette évolution-là. Et puis, c'est vrai que je dois quand même dire que j'aime bien essayer de nouveaux trucs à chaque fois. Ouais. Et alors bon, des fois, malheureusement, parce que quelques éditeurs qui doivent se bouffer les doigts. Mais des fois, ça marche, quoi. Et c'est quand même le texte qui va influencer quand même mon feeling là-dessus, quoi. Et, alors bon, j'espère que globalement sur la quantité on arrive à trouver un fil rouge. Il me semble qu'on y arrive, mais Demain une oasis et l'Histrion, c'est tellement deux univers différents que pour moi c'était juste évident, tu vois, de traiter ça d'une façon différente. Mais après c'est vrai que je préfère largement celle que j'ai fait pour Sexomorphose que celle que j'ai fait pour l'Histrion. Mais ça c'est un problème de cadrage, de composition. Mais moi ce qui m'amusait dans les couvertures, c'était de mettre toujours ce que je lis le livre en entier. Et j'essaie de faire en tirer un résumé, en fait, tu vois. J'aime pas illustrer un bout d'une scène, tu vois, avec la bouteille de Coca-Cola qui est dessinée au reflet près, comme certains autres illustrateurs. Chacun son truc, moi j'arrive pas du tout à faire ça. Et j'aime bien illustrer l'idée globale du roman. Et c'est vrai que là, par exemple, tu vois, sur le balcon, il y a un balcon qui sépare l'Histrion du deuxième personnage. Eh bien, la frise du balcon en fait raconte le livre, en fait, mais personne ne le sait. Les cartes que la nana de Sexomorphose jette en l'air, c'est des cartes double face, tu vois, c'est des cartes roi, dame à chaque fois. Mais personne ne le sait, on le voit que sur l'original, parce qu'une fois réduit sur la couverture, on voit pas du tout ça. Tu vois. Mais c'était une manière de parler de cette bisexualité, enfin, pas bisexualité. Mais... Ah, t'étais déjà dans la LGBT à l'époque.
Vous pouvez nous parler de votre projet de BD qui a jamais vu le jour? Parce que Gilles nous a fait un
non.
Projet de BD en avec plusieurs.
Alors, ben, je crois que ça date de la première nuit, en fait.
Oui. Je confirme. Le communard.
Et c'est vrai que le communard, ouais. Alors ça, c'est le carré de soie. Ouais. C'est encore autre chose. Ça a été le début. Alors,
raconte-nous un petit peu les illustrations.
Alors ça, pour répondre à la question concernant le format, ça c'est une image qu'on voit en trois parties, hein. On voit il y a trois bandes verticales, je ne sais pas si on la voit bien. Mais en fait, chaque bande verticale fait 2 mètres par 1 mètre. En fait. Donc là, le bout qu'on voit fait 3 mètres. Et la première image qu'on a vue, là, la salle de bain en question, en fait c'est l'ensemble de ces images-là, qui est ce que j'ai appelé le carré de soie, en fait c'est SOI. Hein. Et qu'un carré, en fait, il y a 22 panneaux qui se montent en carré, intérieur-extérieur, en fait. Et alors, comment parler de ça? Je ne vais pas faire non plus trop long. Donc, c'est une fresque, en fait, qui déployée, elle fait 2 mètres de haut par 22 mètres de long, en fait. Et c'est autour des étoiles mourantes, en fait, le livre d'Aerdal et de Jean-Claude Duniac. Et ça, c'est juste parce que je pense que je suis un peu. rancunier, mais des fois j'ai quand même. Bon. Et en fait, c'est juste que Marion Mazurik, on s'était fâché parce qu'il y a eu. Bon, bref, on a, alors, je fais l'illustration pour parleur aux éditions J'ai lu. On a un problème de délai, ce qui fait que l'illustration, elle paraît comme elle peut, mais comme je peux la fournir, finir la couleur. On ne s'était pas vraiment compris avec Marion Mazurik. Et le livre ne fonctionne pas. Je donne mon point de vue après. Bon, le livre ne fonctionne pas au départ. Mais bon, Heyerdahl se met à écrire de la fantasy, et vendu en fantasy, pour moi, c'était, il y avait tout un ensemble de choses bibliques qui fait que le livre, en tous les cas, n'avait pas trouvé son public au départ. Et puis un an après, Marion Mazurik me reparle de la couverture. En fait. Alors on se fâche. Donc moi, premier caca nerveux, je rentre chez moi après le rendez-vous, je prends l'illustration originale qui était un original papier, comme on a vu tout à l'heure, donc 50-65, je déchire l'original en petits bouts, je mets tout ça dans une enveloppe et je renvoie à Marion Mazurik, sauf un bout, qui a une jeune personne ici présente dans la salle. Et cet histrion donc finit en morceau chez Marion Mazurik avec une petite lettre accompagnant mon geste en fait. Et ça, bon, je crois qu'elle m'en a vendu. Elle m'en a voulu la mort pendant longtemps.
Cette affaire juste, ça l'a empêché de dormir, forcément.
Au moins. Et puis sur ce, après arrive la étoile mourante Jean-Claude Dugnac et Heyerdahl. Marion refuse que je fasse la couverture parce que c'était la collection millénaire et qu'il fallait trouver un nouveau concept. Alors à l'époque, ils avaient trouvé un super nouveau concept, hein, on est d'accord. Et puis ben, moi, je lui dis, écoute, moi, le livre, j'ai vraiment envie de le faire. Donc voilà, j'ai fait un deuxième caca nerveux et c'était une fresque de 22 mètres de long. D'où le carré.
C'est énorme de recevoir ce qu'on a ressenti avec Jean-Claude quand on a vu le carré de soie, c'est phénoménal. Nous sommes les seuls auteurs au monde à avoir été illustrés de 2 mètres de long par 2 mètres de haut. Quoi.
Donc chaque face représente un des passages du livre en fait, et là, la fresque déployée fait un mural que j'ai utilisé une fois à Lyon, ça a été exposé une fois. Il a été exposé à l'Utopia, enfin le premier Utopia là en 99 à Poitiers. Je crois qu'il a été, ouais, il a été posé aussi à Utopia là, en 2000, une fois à la maison d'ailleurs en Suisse, au musée. Ouais. Et j'avais fait des petites photos, il y a Anki Villa, il y a une digger qui était dedans, tu vois, donc ça m'amusait. J'avais l'impression de transporter ma maison sur le dos et puis de faire des photos, tu vois, de sorte d'apnée. Et puis depuis, bah, bon, il y a eu trois panneaux qui ont été achetés par un copain en cours de réalisation,
ouais.
Donc ils sont à Lyon, et du coup j'ai refait les trois panneaux, c'est ce qu'on vient de voir. C'est assez amusant, mais ça m'a occupé un moment quand même.
Il y a eu beaucoup, enfin il y a eu souvent comme ça des œuvres en dehors des couvertures sur les livres. Alors, c'est bon, le cas exceptionnel celui-ci.
Ouais, bon, c'est vrai. Une ou deux couvertures de refusés du coup, et ben, ça reste des images en dehors du livre.
Ouais.
Mais bon, après j'ai quelques travaux perso mais qui gravitent autour de l'univers littéraire, mais pas non, ça c'était le seul. Et de toute façon, l'étoile mourante, ça reste quand même un peu exceptionnel, même sur la production française. Enfin, pour moi, ça ouais. Reste. Donc ça c'est l'image de couverture qui a été utilisée, qui a été finalement fait pour le J'ai lu, pour l'étoile mourante, édité chez J'ai lu. Et là c'était donc le fond, c'est une photo du. Carré de soie, en fait, avec un petit vaisseau de l'eau. Et ça, c'était bon, les étoiles mortes, hein, puisque les animaux vides, voilà, venaient de Jean-Claude Dugnac, que j'ai illustré peu de temps après, en fait, avoir commencé à illustrer Heyerdahl, avec Étoiles mortes, en fait, qui avait été publié en deux tomes chez Wolfgang Mohr, toujours avec Nicole Hibert. Et là, c'est, moi, c'était assez marrant parce que du coup, c'est un auteur qui m'a fait découvrir aussi une autre facette de mon travail, ouais. Plus organique. Plus,
Donc, on continue. Et là, on arrive à la BD.
Voilà, des planches. La première fois que je les montre, là, quasiment, ouais, j'ai dû les exposer une fois à l'Hydrac à Paris, en 90.
Voilà. Alors, racontez-nous un peu le projet.
Ah ben, le projet, c'était l'Histrion, quoi. Ça, c'est le prologue de l'Histrion, tu vois.
expliquer l'Histrion. Ah
non, 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 mais voilà, c'est les premières pages de l'Histrion, ça c'est la première page de l'Histrion. Quand il se fait agresser en rentrant chez lui, en ayant un monologue sur sa vie dissolue.
Ouais.
C'est là qu'on comprend qu'il est sexo mort, mais en plus gigolo.
Pas de son métier. Hein.
Et vu que c'était le premier projet, que bah, ça n'a jamais abouti, parce qu'on l'a montré à quelques éditeurs, et puis.
Voilà. Du coup, il y a combien de planches
je crois qu'il y a 4 planches, en fait. Il y a eu d'autres essais, enfin, j'en avais. Voilà, il y a eu d'autres planches, tu vois. Bon, c'était à l'aéro tout en couleur, alors c'est vrai que c'était juste un peu fastidieux quand même. Et, mais à l'époque, bon, à part quelques problèmes de personnage, tu vois, mais, par rapport à la production de l'époque, je pense que ça aurait pu passer. Quoi, ouais. Bon.
Ça, c'est combien de temps de travail à l'aéro? C'est une journée, c'est deux jours.
Ah non, c'est une journée, c'est
bien, ouais.
Même deux jours. Non, 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 là, il y a au moins une semaine de boulot. Enfin, sur une illustration, il y a une centaine d'heures de travail. Sur une planche de BD média que je ne maîtrise pas, je m'imagine qu'à l'époque, il peut y en avoir encore un peu plus.
C'est toi qui avais fait le découpage, le scénario
Non, là on l'a fait ensemble.
On l'a fait ensemble. Ouais. Ça a été 15 jours enfermés.
Ah, on n'est pas sortis.
Avec son chauffe-eau.
Ça, oui, mais bon. Non, mais par contre, il y avait un carnet, un cahier, papier, livre dessiné, c'est des trucs, on discutait. Non, mais on a vraiment passé 15 jours pour, quasiment enfermés, effectivement. Quand on était dans une maison et on échange d'idées à tout va. On essayait à la fois d'être original, mais de respecter. Enfin, c'est une période assez extraordinaire. C'était la première fois que je travaillais à deux. Parce que j'ai travaillé à deux ensuite avec Jean-Claude. Mais en plus, la première fois que je travaillais à deux, le mec, il a été animateur socio-culturel. Professeur de ski et un certain nombre d'auteurs. Et non, j'avais déjà travaillé à deux, mais pas dans les domaines artistiques. Et en plus, mais c'était un échange permanent, rebondissait sans arrêt, ce qui fait que ça nous a pris, 15 jours. Ça aurait pu durer davantage, d'ailleurs, il a terminé du coup. Voilà. Mais c'était permanent. L'échange d'idées, l'échange de points de vue, l'échange.
Par rapport à cette période, tu vois, il y a quand même un truc qui est. Enfin, qu'il faut quand même souligner, c'est que, en fait, on est mutuellement nos premiers potes de SF. Mmh. Et ça, c'est assez marrant, quoi, en fait. Parce que ben, ça aurait pu être un passage, tu vois. Et en fait, voilà. Et je pense que ce foisonnement était aussi dû à ça, tu vois. On a trouvé une âme sœur avec laquelle on va pouvoir faire.
Est-ce qu'on peut dire que l'un vous êtes influencé?
Alors là,
sur 25 ans, vous
êtes arrêté. Mais je pense que m'a carrément drivé. Sans le savoir.
On s'en raconte bien la question, c'est sans le savoir. Bien sûr que j'étais influencé. Je n'avais pas d'image, comme la plupart des auteurs. C'est aussi le cas de Jean-Claude Dugnac. Nous sommes des gens qui pensons en mots, qui rêvons en mots. C'est des mots avec des lettres, c'est des lettres qu'on voit circuler, c'est comme des pages de livres. Et il n'y a jamais d'image. Donc ni couleur, ni noir et blanc, ni même pas ça, on est en symbole. Et c'est à travers Gilles que j'ai découvert ce qui pouvait être représenté à partir de mon imaginaire, et petit à petit, mon cerveau s'est mis à fabriquer des images. Aujourd'hui, quand j'écris un roman, je le vois dans ma tête, vraiment comme on... Non pas comme on voit une BD, mais comme on voit un dessin animé ou un film. C'est venu, ça a pris le temps, petit à petit. Et Jean-Claude a vécu exactement la même chose. Jean-Claude qui est aussi on forme presque un phénomène.
Ah, aujourd'hui,
oui. Voilà. D'ailleurs, l'étoile mourante, on l'a mis en numérique tous les trois, il y a quelques temps. Donc, il faudrait qu'on fasse un petit peu de travail pour le relancer un peu. Et donc, je ne sais pas vraiment ce que je t'ai apporté. Je pense que si, il y a quelque chose.
Il m'a fait quitter
Paris. Oui, ça, c'est, là, je t'ai apporté un truc énorme. Et puis, je t'ai interdit de retourner à Nice aussi.
Voilà. D'accord.
Mais moi, c'est clair, c'est passer de l'étape rêver en mots à rêver en images.
Et voilà, enfin moi, disons, après tout ça, c'est vrai que j'arrive, tu vois, sur le parcours, j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi un éditeur casse ça, en fait.
Ouais.
Je comprenais pas, parce que je me disais, ben, pourtant, il n'y a rien qui justifiait le truc d'interrompre, en fait, tu vois, d'essayer autre chose ou quoi, je comprenais pas, parce que ça fonctionnait, ça fonctionne, les deux univers étaient, pour moi, sont vraiment en adéquation, je lis, je le vois parfaitement, tu vois. Et en plus, bon, dans les résultats, a priori, ça fonctionnait. Donc, donc là, voilà, j'ai pas la réponse.
Je pense qu'elle ne se souvient même pas
de
la raison.
Ouais.
Je sais qu'elle voulait un graphisme différent dans la collection millénaire que dans la collection J'ai lu, ce qui était à peu près normal jusque-là. Mais Marion, j'espère que tu nous entends. La couve de merde qu'on a eue sur l'étoile mourante millénaire, c'est.
Vous avez la première couverture.
C'est les boules, c'est
voilà, ça c'est les boules. Voilà. Voilà. Alors, quand on a reçu ça avec Jean-Claude, c'est. On a appelé au secours en disant non, ça on n'en veut pas. Et là, c'est pas Marion qui nous a répondu, hein, c'est le DG de J'ai lu et qui nous a carrément dit il dit Coco, relis ton contrat, tu décides pas ça, c'est moi. Ok. Tu sais où tu peux te le mettre, mon prochain bouquin ? Hein ? Non, des fois, on a des relations difficiles avec les éditeurs. Mais ça a cassé quelque chose un petit peu. Et puis après, quand Marie a monté le Diable Vauvert, les éditions Diable Vauvert, il faut le dire, parce que sinon on ne comprend pas, et que bah, j'ai basculé chez le Diable Vauvert, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, on va pouvoir recommencer à travailler avec Gilles au Diable. Et sur le premier bouquin qu'elle a publié, Les Chroniques d'un rayon, au départ, elle m'avait dit clairement, c'est non, je ne veux plus d'illustration, je ne veux plus d'illustrateur, etc., etc. Et je l'ai lu en plus. On a fait, enfin, Gilles a fait un montage à partir d'un triptyque géant, un truc que tu n'as pas exposé à l'extérieur.
Très peu de fois,
a fait un montage, je l'ai envoyé à Marion, j'ai rien dit. Voilà, moi, toi, ce que j'aimerais, c'est un petit peu ce genre de boulot. Mais c'est génial, ça, je prends.
D'accord.
C'est comme ça que c'est passé.
C'est
le corps défendant de Marion, c'est passé. Par contre, du coup, elle a remis le verrou après, en disant non, tu ne me refais plus ça. Ouais. Je dis pas à quel point je peux être vicelard, et pas que moi d'ailleurs. Donc, normalement, le suivant devait ne pas être illustré. C'est des créations très conceptuelles qui font des couvertures du Diable Vauvert, qui sont par ailleurs, pour la plupart, magnifiques, mais qui ne correspondent pas à l'imagerie de la science-fiction. Donc, si c'est bien adapté à plein de genres, ce n'est pas adapté à la science-fiction. Et puis, surtout, qui ne correspondent pas nécessairement à ce que l'auteur attend comme reflet de son travail. Je l'ai eu une deuxième fois avec Transparence, donc le deuxième bouquin que je publie chez elle, c'est pas là, il était hors de question que je le refasse le coup de Gilles, parce que cette fois elle a été avertie, c'est Mandy qui a fait la couverture, un autre ami illustrateur qui avait été d'ailleurs l'illustrateur qui t'avait relayé sur le Sibion, puisque toi avais fait les premiers, il a fait les derniers. Voilà. Et je l'ai eu une troisième fois avec Bourgeon, et puis je l'ai encore eu Marion, tu n'écoutes pas, hein. Voilà. Mais elle ne voulait pas d'illustrateur. Et nous, en se battant un petit peu, en disant, faudrait peut-être, c'est passé. Alors malheureusement, je vois bien dans tout le travail qu'on a fait ensemble, et dans mon écrit, et dans tes illustrations, et dans ce qui en ressort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est daté. Nous sommes datés 90. On a le tampon année 90 quelque part, alors qu'à nous deux, on a presque 4563 ans. Ah non, en te comptant toi, voilà.
À peu près. Je vous montre la dernière, parce que On a franchement le dernier. La troisième lame.
Donc deux novellas de d'Ayerda qui viennent de sortir. Alors j'en suis l'éditeur, hein. Je ne vais pas me cacher. On n'avait pas trop décidé pour la coupe. Puis ils sont venus me voir tous les deux aux Utopiales en me disant bon, faut qu'on parle. Là j'ai compris que je ne pouvais que faire ça. Mais bon, en même temps, comme Gilles a déjà fait plusieurs couvertures chez nous, c'était pas très cool quoi. J'ai pas été trop dur à convaincre. Donc voilà. Ça donc du coup par rapport à ce qu'on a vu, c'est du Photoshop. Hein.
Ah oui, maintenant c'est sur Photoshop.
Et alors comment tu l'as conçu? Pareil, donc gros vaisseau, personnage.
J'ai relu les textes, et puis bah, forcément, moi ça faisait écho à d'autres, à l'univers complet, quoi, l'homocratie, toute la projection qu'il avait mis en place, puisque là c'est, on est quand même dans l'univers du premier livre que j'avais illustré. Moi ça m'a renvoyé vraiment à ça. Après graphiquement, voilà, je l'ai composé avec des bouts, tu vois, essayer de monter un vaisseau qui tienne la route. Parce que bon, dans les textes, il y a plus d'un texte d'Ayerthal, met en scène la colonisation, ok, mais il y a toujours le passage où l'étranger arrive en fait. Le facteur déclencheur arrive, l'astroport, enfin tu vois, la visite, l'inspecteur, ici, là, le mec qui vient et qui va soit perturber tout ça, soit s'apercevoir qu'il y a un gros merdier au milieu. Donc cette idée d'astroport est arrivée entre temps, et en fait une fois je réfléchissais à la couverture en roulant, tu vois, j'habite dans la Drôme, donc les grandes étendues et avec des vols détournés ou de corbeaux, quoi. Et j'ai cette vision du Kinera, mais d'une façon agressive en fait, tu vois, qui te renvoie au aux 23 ans, quand j'avais découvert les premiers textes, tu vois, relire La Bohème est livrée, revoir cette violence contenue, cette adolescence qui demande qu'une chose, c'était tout pété, pour moi c'était forcément, tu vois, une espèce de jaillissement. Et du coup, la moitié de personnage se décomposant comme ça, il est vraiment arrivé là-dessus. Quoi. Bon, l'image est un peu plus grande, normalement, elle passe en quatrième de couverture, mais du coup, il y avait vraiment cette violence. Quoi. Et voilà, j'ai essayé de la remettre et j'avoue que je suis assez content de cette image. C'est la seule image que je me suis autorisé à me mettre en fond d'écran. Je suis assez peu bon public avec mon boulot et celle-là, donc j'en suis content.
Ouais, allez-y.
C'est passionnant en fait ce que vous venez d'exposer. Est-ce que en fait moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'en fait au moment que vous illustrez en fait vos œuvres, est-ce que vous en fait vous pensez que ça va faire plaisir au lecteur, ce que vous êtes en train de faire vos choix en fait, dont vous savez choisir peut-être un tel ou tel acteur, un tel euro, histoire.
Alors je crois que mon intention, quand je pense à la couverture, ça c'est peut-être un peu un désir narcissique, j'en sais rien, ou puéril, quoi. Mais je crois que j'ai gardé mes 16 ans là-dessus, quoi. J'ai juste envie de foutre un coup de pied, quoi, ou d'avoir une image alors qui percute, mais c'est pas que par la violence, quoi. Ça peut être des images, par exemple, comme déchiffrer la trame, ou il y a une mise en scène qui va interpeller, mettre. J'ai pas envie d'illustrer, quoi. J'ai envie de parler du fond du texte et de m'appuyer là-dessus pour aller encore un tout petit peu plus loin, quoi. Parce que graphiquement, quelles que soient les idées véhiculées par un texte, dès que c'est interprété en dessin, c'est quand même plus percutant. Enfin, simplement parce qu'on fonctionne en visuel avant tout, quoi, parce qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, et qu'un dessin qui montre une violence, bah, il est plus dérangeant qu'un texte qui va nous expliquer des fois. Et ça, bon voilà, c'est quand même mon intention. Ouais. C'est vrai que c'est quand même mon intention au départ.
Vous pensez
pensez au lecteur?
Tous les deux, quand vous écrivez ou quand, quand vous dessinez?
Je pense qu'aux lectrices.
Non, moi je pense à l'auteur.
Ouais,
ouais. Je pense à l'auteur. Et puis là, bon.
Là, l'éditeur un peu aussi.
À l'éditeur aussi, bien sûr. Non, mais voilà, mais là, c'est là, les, pour le coup, le jeu est un peu faussé là-dessus. Quoi, par rapport à, mais.
Dans l'objectif, c'est bien pour en fait pour voir si ça va lui plaire en fait ce que vous venez de travailler quoi. C'est bon, cet esprit que tu poses la question, c'est pas en fait pour penser à lui pour.
Oui, non, mais par exemple
l'illustration.
Moi, sur l'illustration, il y a par exemple quelque chose, je sais pertinemment que je conçois l'image d'une façon différente. Que, entre guillemets, la horde de commerciaux qui va travailler pour l'éditeur. Je me suis jamais posé la question de me dire est-ce que cette couverture va faire vendre le livre. Parce que j'espère juste interpeller au départ le spectateur, parce que c'est celui qui va passer devant on ne sait pas qui va être le lecteur. On sait qu'il va être spectateur simplement parce qu'il va voir la couverture dans un rayon de librairie. Et là, celui-là, j'ai envie de l'accrocher. Voilà. Et j'espère qu'en mettant un sens un petit peu dans l'illustration, un bout de l'intrigue, un bout du message entre guillemets du livre, ben j'espère que s'il prend le livre dans les mains, ça va l'amener un tout petit peu plus haut que si ça avait été juste lui donner envie de l'acheter. Quoi. Moi j'ai envie qu'il le lise, alors que l'éditeur, pas toi, mais certains éditeurs, ils ont juste envie que vous l'achetiez le livre. Ils s'en foutent si c'est pour caler l'armoire, quoi. Donc moi j'ai quand même envie qu'ils le lisent et que du coup on parle et que dans la couverture on parle du livre. Et j'assistais à la conférence sur l'écriture féminine par exemple et bon on parlait bon. Et en fait ça me faisait penser aux éditeurs et éditrices qui souhaitent encore mettre des guerrières nues en couverture. Et moi ça me fait je suis très content de faire très peu de couvertures aujourd'hui, même si mon banquier préférait que je fasse le contraire. Mais je suis très content d'en faire très peu parce que quand je vois ce qui se fait, je suis affligé, quoi, complètement affligé. On a changé de technique, on a changé de mode, on a changé d'égalité, puisqu'on en parlait hier, et pourtant c'est les mêmes poncifs de vulgarité, hein, parce que... Je ne vais pas citer Bragelonne, mais par exemple Bragelonne, c'est des trucs tu te dis mais c'est pas possible, on est passé à autre chose et il y a encore la nana à poil qui vend un livre, quoi. Il mettrait une Ferrari en couverture, ce serait le même. Et j'ai l'impression qu'ils sont restés sur ce principe-là et ça me.
Stéphane, Alain, puisque vous nous entendez, à côté de la nana à poil, mettez la Ferrari.
Mais voilà, on est. Et je trouve que c'est un peu dommage. Quoi.
Une question par rapport à votre projet de bande dessinée, c'est complètement enterré ou ça va revenir? Et est-ce que vous auriez un projet qui serait de partir simplement d'une idée mais pas d'un livre écrit pour faire une autre BD?
Ce serait bien.
La réponse est bien. Ce serait bien. Je pense effectivement que l'idéal serait de partir sur un projet commun, c'est-à-dire de construire complètement un truc ensemble, plutôt que de partir sur un travail déjà établi. Il est possible de réutiliser des univers qui existent, mais pas des histoires, parce que scénariser un roman pour en faire de l'image, que ce soit de l'image audiovisuelle ou que ce soit de l'image papier figé, je veux dire, pas en mouvement. J'ai trouvé le truc, c'est assez difficile, c'est assez compliqué parce qu'il y a tout un découpage, il faut choisir un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il serait, pour moi en tout cas, beaucoup plus facile de travailler à partir d'une nouvelle idée, on échange un peu, de toute façon on voit, on fait deux, trois petits tests, on construit les personnages petit à petit, et surtout on peut faire un découpage qui tienne la route, qui a un sens, où c'est pas, on ne va pas arrêter une image au milieu de la page parce que il n'y a plus de place dans la page. Mais... le projet de faire un truc ensemble, on en a eu plein, on a eu d'autres, entre autres, de travailler sur Étoile Mourante avec Jean-Claude Lignac, de faire le truc à trois, l'idée était excellente. Il y a juste un tout petit défaut, c'est un roman qui pèse dans les 600 pages, ce qui signifie qu'en BD, au minimum, mais vraiment au minimum, c'est une BD de 200 pages. 200 pages de BD aujourd'hui à vendre à un éditeur, c'est à peu près comme essayer de lui placer une nouvelle de chevaux. Non, c'est pas possible.
Et même en coupant, en disant que c'est un format de BD plus classique.
Oui, alors là c'est là, ce qui joue quand on fait ce genre de choses, c'est la notoriété. Quand on est un tout petit peu connu dans le domaine de la BD, aller proposer un projet de 8 tomes, il n'y a pas de problème, ça vient tout seul.
Parce que l'École Mourante, on l'avait envisagé en 5 tomes, puisqu'il s'articule autour des 5 classes. Mais c'est vrai que c'est le seul projet qu'il y avait eu sur un texte fait, en fait, puisque Distrion, quand on en a parlé la première fois, les planches ont été faites, le livre n'existait pas, puisqu'au départ c'était un projet de BD.
Oui, c'est ça. Voilà, j'en ai fait un roman. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve, mais maintenant que vous le savez, si vous relisez le livre ou lisez le livre, on voit le découpage qui est quasiment, qui était beaucoup plus adapté à la bande dessinée qu'au roman.
Après, c'est un souci de dessin aussi, parce que moi, je suis pas un dessinateur de bande dessinée, donc c'est quand même... C'est un sacré exercice quoi, de s'emparer d'un personnage, de vraiment le connaître par cœur et puis de pouvoir le dessiner vraiment sur toutes les facettes et choses comme ça. C'est un vrai exercice de dessin. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir le temps et l'énergie pour m'attaquer à ça. J'aimerais bien, le désir est toujours là. Mais...
C'est un très gros travail pour le dessinateur, une bande dessinée. Pour le scénariste, c'est... Je dirais que quand un scénariste passe un mois sur une bande dessinée, le dessinateur lui va passer un an. Et le rapport financier s'équilibre pas comme ça. Enfin, je veux dire, faut se battre avec les éditeurs pour qu'on dise clairement, voilà, c'est un truc au total à diviser en 12, tu as une part qui va au scénariste et 11 qui vont au dessinateur. Bon, ça fonctionne pas du tout comme ça. Tout se négocie, mais la faculté de négociation et faculté, elle dépend de deux choses, de la force de caractère qu'on peut avoir et la peur de rien, je les lis ensemble. La deuxième, c'est toujours la notoriété. Aujourd'hui, quand je négocie avec un éditeur, ça m'est beaucoup plus facile que que sur mes 5 premiers bouquins. Je dis ça m'est beaucoup plus facile parce que l'éditeur cède beaucoup plus facilement, mais ils ont lâché même sur mes premiers bouquins, parce que de toute façon c'était ça ou merde. Mais là c'est vraiment une question de tempérament. Avoir peur de rien et dire je ne céderai pas sur le principe, il n'y a aucune raison, tu n'as rien foutu. Tu fais un boulot qui te prend quoi, allez, 3 jours salarié, moi j'ai passé un an dessus. Et tu m'expliques que je vais gagner 7% sur le bouquin et toi 25. Ça va pas la tête. On recommence à zéro. Pas d'auteur, pas d'éditeur. Et pas de libraire, pas de bibliothécaire.
Et pas de lecteur.
Ah mais ça, pas de lecteur. Alors là par contre, il va y avoir un moment où le lecteur va s'auto-punir. On change quasiment le texte. Je le dis très rapidement, on en parle de toute façon demain en conférence. On le fera au moins tous les deux. C'est juste. Grosso modo, le numérique, c'est un truc qui arrive là. En France, ça arrive un petit peu lentement parce que ça a traversé l'Atlantique à la nage. Donc il a fallu quand même un moment. Et oui, Internet n'existe pas entre la France et les États-Unis. Non, enfin, c'est plaisanterie mise à part. La lecture numérique, qui représente aujourd'hui un peu plus de 55% du marché américain en chiffre d'affaires, c'est-à-dire un peu plus de 65% du nombre de ventes de bouquins, en France, on est à 2,3%. Pour 2012, on a encore un tout petit peu de retard, mais ça va se combler. De toute façon, on va y passer. C'est beaucoup plus pratique d'avoir une liseuse qu'une bibliothèque de 400 mètres carrés. Par ailleurs, si on fait ça intelligemment, si on vend les ouvrages numériques à un prix très raisonnable, puisque c'est bon, donc ça va fonctionner. Je ne sais plus ce que je voulais dire au départ.
Le lecteur,
lui, par contre, ce qui est bien, vachement bien avec le numérique, voler un bouquin dans une Fnac ou même dans une bibliothèque, c'est pas facile. Voler un bouquin numérique, là par contre c'est à la portée de toute personne se donnant la peine d'apprendre à utiliser un clavier. Il n'y a même pas besoin de... Il n'y a pas grand chose à savoir. Donc bah, je crois qu'un certain nombre de lecteurs vont faire le choix, puisque les éditeurs vont faire le choix de vendre très cher, un certain nombre de lecteurs vont faire le choix de ne pas acheter les ouvrages, mais de les acquérir quand même. Attention, je ne parle ni de vol ni de piratage. Et voilà. Et ben les, ça va peut-être un petit peu tuer les lecteurs, les auteurs. Un tout petit peu. Hein. Déjà, on ne vit pas très très bien, pour être tout à fait honnête. L'auteur est celui qui gagne le moins. Non, mais je ne veux pas faire politique maintenant.
Au-delà de ça, les syndicats, tu peux en aller.
Au-delà de ces considérations qui ne sont pas politiques, est-ce qu'il y a parfois des illustrations qui font naître un roman, une partie de roman?
Oui.
C'est déjà arrivé dans votre coopération.
Pour moi, très clairement, il y a tout un travail, alors c'est dans, plus dans Sexomorphose que dans l'Histrion, qui vient des illustrations de Gilles et des images. Et puis pour Étoile Mourante, bon, c'est encore plus flagrant, parce qu'on a construit avec Jean-Claude, j'allais dire inconsciemment, non, c'est pas inconsciemment, puisqu'on en parlait pendant des heures, on a construit tout l'imaginaire, toute l'imagerie science-fictive qui est dans les Étoiles Mourantes, vient des illustrations de Gilles. Et ce qui a été très drôle, c'est qu'au moment où il a fait le carré de soie, qui retranscrit les Étoiles Mourantes, on a trouvé exactement l'imaginaire qu'on avait construit à travers ce qu'on imaginait du travail de Gilles. Cher Céline. Voilà, c'est un truc, c'est magique. Oui, oui, alors, c'est incestueux, médecin, inceste.
Étoile Mourante dans le livre illustré, par exemple,
pour faire un bel objet.
C'est ça que ça me fait penser. Et à autant de c'est une bonne. Je ne sais pas si vous avez engagé ce type de collaboration, c'est un peu. Ça devient rare, hein, dans le livre illustré.
Alors, Gilles a collaboré avec Pierre Bottero. Si je ne me
trompe pas. Oui.
Quand même, donc raconte. Ça devient rare, mais il l'a déjà vécu.
Non, mais il y a des livres illustrés. Bon, là, par exemple, il y a Nemos,
ouais,
qui publie. Un an dans les airs, c'est ça,
ouais.
Autour de Jules Verne, ils ont publié l'année passée autour de Lovecraft avec le même illustrateur. Donc c'est vrai que c'est quand même, c'est possible, c'est possible.
Là on parle de l'ancien, qui sont illustrés maintenant.
Non.
Alors, c'est des textes originaux en fait. Ils ont fait travailler les auteurs autour de l'univers en fait. Mais du coup ils sont illustrés maintenant par un illustrateur. Et c'est vrai qu'Étoile Mourante, pour parler d'un livre existant par exemple, pourrait faire l'objet de cette mise en image. Ou un projet original, effectivement. Enfin, moi, ça m'éclaterait. Tu serais d'accord, toi?
Moi, je suis d'accord, mais mais c'est quelque chose qu'on envie. On en a déjà parlé avec Jean-Claude. Ce qu'on envisage plutôt, c'est de créer une œuvre originale totalement multimédia à destination des tablettes et des visuels. Voilà. Donc, parce que. Il y a d'autres projets, d'autres idées comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'un jour on puisse se taper un film.
Ouais.
tu dessines les lettres, j'invente les mots.
Non, mais c'est vrai que ça permettrait que. Enfin, dans l'idée, hein, c'est vrai que ça me plaît pour votre suggestion, parce que ça permettrait de concrétiser ces années de collaboration un petit peu autour d'autres choses.
Enfin, là, on a l'impression que vous nourrissez la distance. Mais, c'est un peu comme du dans le bureau, on se tourne autour, on n'entend pas le sujet.
Peut-être, mais on n'est pas rentré dans le sujet, il faut voir, mais c'est malgré soi autour de l'éditeur en fait. Parce que la seule. Une des prérogatives de l'éditeur, hormis. Là, je ne parle pas de la QSF, c'est particulier, bon. Mais les éditeurs se targuent, je dirais, d'être responsables de la mise en couple, la mise en relation auteur-illustrateur. Ils ne veulent absolument pas se séparer de ça. Mais c'est simplement parce que c'est une chasse gardée. Que, bon, non. Mais il y a beaucoup d'éditeurs qui refusent. Bah, je dirais, nous, notre malheur, entre guillemets, ça a été d'arriver chez J'ai lu, par exemple, ensemble. Parce que J'ai lu était bien séparé à l'époque entre fabrication et donc il s'occupait des illustrations et tout ça, et l'aspect littéraire. Et donc on est arrivé par le littéraire, quoi, en fait. Et moi j'ai bien clairement assisté au fait qu'on faisait l'objet de la guerre entre la fabrication et le littéraire, en fait, chez J'ai lu à l'époque. En fait. Alors que nous on croyait naïvement que le couple fonctionnant. On avait toute légitimité à prétendre continuer. Quoi. Et on a bien vu qu'on avait mis le doigt sur un problème interne, en fait, et qu'on en faisait des frais. Quoi. Alors, ce qui fait que sur certains, avec d'autres éditeurs, c'est différent. On peut arriver de cette manière-là. Du coup, par exemple, j'imagine que si le projet se faisait, les auteurs proposant un projet de livre illustré à un éditeur, l'éditeur va dire « Ah ben, moi, je te trouve l'illustrateur. » Et du coup, je pense que si même ils disent « Ah, mais il y a Gilles, là, dans un coin, là, il fait pas de bruit au côté du radiateur, on pourrait l'appeler, juste parce qu'on m'aura cité, ce sera quasiment nom d'office. » Il y a vraiment une espèce d'attitude complètement puérile. Voilà. Mon expérience avec Pierre Botero chez les éditions Rajo, par exemple, a été surréaliste. Bon, c'était formidable sur la relation, nos problèmes, mais il y a eu des moments d'une grande solitude. où dans les remerciements, je parle de mon éditeur, un téléphone en disant « Mais je ne suis pas ton éditeur, je suis l'éditeur de Pierre Botero, tu n'en es que l'illustrateur. » Ah, mais oh, on n'est pas à la cour de récréation. Quoi. Et plein de petits effets comme ça qui renvoient l'illustrateur un peu dans son coin de surtout tu la fermes, mais c'est vrai que voilà, c'est des fois c'est un petit peu dommage quand même. J'ai jamais retravaillé avec Rajo d'ailleurs. J'ai fait une couverture Les âmes croisées pour Pierre Botero parce qu'il le désirait. J'ai fait Le chant du troll avec lui parce qu'il le désirait. Ça a très bien marché globalement parce que il me semble que Les âmes croisées, pour ceux qui connaissent le livre, on n'a pas trop honte de m'ouvrir dans le métro comparé aux autres productions de Pierre et illustrées par d'autres illustrateurs et même par l'éditeur, quoi. Enfin, les autres productions de l'éditeur. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, en fait, la relation n'a pas continué. Et c'est plein d'inconnus comme ça, on sent bien qu'on a affaire à une espèce de rapport un peu de pouvoir. Quoi.
C'est pas la cour de récréation, c'est vraiment un rapport de pouvoir. L'éditeur s'octroyant un pouvoir régalien. Et comme il a du mal à maîtriser complètement les auteurs, il maîtrise tout le reste. Et les illustrateurs sont les premiers à en faire du frais. Pas que techniquement, pas que sur le temps du boulot, pas, mais aussi financièrement. Grosso modo, ce que gagnent les auteurs sur un bouquin a été divisé par deux en 20 ans. Ce que gagnent les illustrateurs sur une couverture a été divisé par 5 sur la même période. Pourquoi ? Quoi ? Tu veux plus cher ? Tu veux plus travailler avec nous ?
C'est vrai que moi, chaque auteur que je connais depuis 25 ans a augmenté son avance sur moi, je dirais. Globalement.
Ce qui n'empêche que du coup, on gagne quand même deux fois moins.
Voire même les droits. Mais, non, mais disons, globalement, ça fonctionne un tout petit peu en progression sur une espèce de reconnaissance. Aucun illustrateur ne vit ça. Alors l'illustrateur trouve d'autres moyens, par exemple, bon, avec des expositions. Là, en ce moment, il y a beaucoup de. Vu qu'il n'y a plus d'originaux, il y a moins en moins d'originaux, du coup, il y a beaucoup de galeries qui se. D'expositions, des galeries d'expositions, donc d'originaux, qui contactent des illustrateurs pour prévoir une exposition d'originaux, même si l'illustrateur, lui, ne fait que du numérique. Et par exemple, là, c'est une nouvelle manière de travailler. L'expo est envisagée, par exemple, dans un an, et l'illustrateur est commandité, en fait, pour cette exposition. Et du coup, il va être payé en avance sur les originaux qu'il va fournir, et ensuite, les originaux seront vendus par la galerie, en amont, d'ailleurs, bien avant le vernissage, bien souvent, et ce qui fait que l'illustrateur trouve un moyen, comme ça, de gagner un petit peu plus. Mais sur les forfaits eux-mêmes, hein, concernant les couvertures, ça n'a jamais bougé. Il y a de très chouettes éditeurs. Hein, moi, bon, à l'époque, je me suis occupé de Artefact, hein, c'était une association d'illustrateurs où on essayait de gratter un petit peu de temps en temps là où ça faisait mal. Et par moment, j'appelais quelques amis illustrateurs qui. Je travaille par exemple avec les éditions de la Talente, je ne vais pas les citer. Je travaille depuis longtemps avec eux. Et à un moment donné, j'appelle Manchu, Biligraphé, qui travaille aussi pour eux. Et je leur dis, mais en fait, les mecs, c'est pas un peu étrange, ils sont super gentils, ça se passe royalement bien. Mais ça fait quand même juste 10 ans qu'ils n'ont jamais bougé leur forfait. Quoi. Donc, il faudrait peut-être essayer de leur signaler, ce serait quand même bien de. Et en face, on me dit, bah non, ils sont gentils quand même, on ne va pas. C'est là, tu dis, putain, mais. Voilà, il y a un vrai décalage.
On a le temps pour une 4 minutes de questions, s'il y en a une dernière.
Et puis après, vous pouvez aller souvent en dédicace.
Alors, c'est une question à 4 minutes, hein, ou alors sinon, on fait deux questions à 2 minutes.
C'est ça.
La question, ça ne sert pas une question aux 4 minutes, c'est ce que vient de dire Régis sur cet état de naïveté dans le métier de l'illustrateur. Comment est-ce que ça évolue?
Alors, ça évolue. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'illustrateurs. Hein, donc, quand j'ai commencé, il y avait peut-être quoi, 5, 6 qui avaient du boulot régulièrement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'illustrateurs. Et les éditeurs, étant séduits par plus d'images, vont chercher des illustrateurs dans d'autres domaines. Et par exemple, le jeu vidéo. Et en fait, les éditeurs qui travaillent avec des illustrateurs venant du jeu vidéo, généralement travaillent sur 2-3 couvertures avec eux, c'est tout. Parce que l'illustrateur, lui, après, il refuse en fait de bosser à ce tarif-là. Et l'éditeur, lui, n'en démord pas. Donc il sait pertinemment qu'il va ouvrir la porte et il y a déjà une file d'attente d'étudiants, de jeunes qui veulent se faire la main. Et il joue là-dessus. Quoi. Alors l'éditeur, allez, les éditeurs se disent tous de gauche, humanistes, hein, on est d'accord. Et en fait, ils sont en train d'exploiter la veine comme s'ils faisaient faire les couvertures en Chine. Quoi. Et je trouve que.
C'est parti d'ailleurs, dont deux des plus gros groupes français commencent à ne plus travailler du tout avec des illustrateurs européens qui vont faire des illustrations en Chine, en Inde et en Indonésie. Ah, j'oublie la Russie qui contribue quand même, je ne dis pas quasiment pour moitié sur leurs illustrations. Il y a un autre phénomène qui joue, ça s'appelle les banques d'images. On en voit de plus en plus, je trouve. Et par exemple, l'éditeur qui publie le plus dans les domaines de l'imaginaire, on ne va pas redire son nom parce qu'on lui fait de la pub, des fois ça me fait mal au cul. Salut Alain, salut Stéphane. N'utilise pas des illustrations originales pour ses couvertures françaises, mais va racheter souvent les illustrations anglo-saxonnes ou des manques d'images. Il va acheter dans les manques.
Il y a quelques exceptions.
Oui, il y a quelques exceptions.
Il y a quelques exceptions, mais.
Même chez BM.
Non, mais. Et c'est quand même des copains, hein, Brajlon, il ne faut pas rêver. Et puis il y a un truc qui est assez extraordinaire, on en parlait récemment. Brajlon, aujourd'hui, on les voit partout. Ils ont permis de réagrandir les rayons des littératures d'imaginaire en utilisant une imagerie qui s'est modifiée par rapport à celle qu'on connaissait. Oui, tout est enregistré. Mais ça fait deux jours que je leur doute dessus, donc ils n'en feront plus à faire près. Et puis ils n'écouteront pas, de toute façon, ils savent que je dis que des conneries. Mais la plupart des images, elles viennent de banques d'images, soit c'est directement l'illustration américaine. L'illustrateur américain qui a déjà vendu son truc à l'éditeur américain, bon, l'illustrateur américain étant quart du temps, c'est un russe aujourd'hui, hein, mais qui a déjà vendu son truc à un éditeur américain qui a donc encaissé ses $150 s'il a vraiment de la chance et qu'il est très 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 connu. Non, qui a encaissé entre 150 et $300 pour son illustration. Quand l'éditeur français lui dit, bah tiens, je vais te donner que $50 ou que $40, il dit oui. Il ne faut pas se poser la question. Et puis, de toute façon, c'est même pas lui qui répond à la question, c'est la banque d'images qui gère le truc, qui dit, alors oui, c'est quel tarif. Donc pour l'éditeur français, c'est absolument pas cher, ça lui coûte moins cher que de faire travailler même les jeunes auteurs qu'on sous-paye, les jeunes éditeurs qu'on sous-paye d'une façon totalement éhontée, ce qui permet de casser les anciens. Et voilà, c'est fini, c'est parti. Il y a un truc qui est amusant, c'est qu'on arrive du coup à se retrouver sur certains éditeurs différents, c'est les mêmes images. Pourquoi ? Ben oui, ben, c'est une banque d'images.
C'est vrai qu'il y a quand même il y a une espèce d'uniformisation quand même de l'univers là, des littératures d'imaginaire visuel. Hein, moi je trouve ça mais vraiment quand même assez affligeant. Quoi. Même s'il y a des illustrateurs et illustratrices qui bossent super bien, je trouve, moi j'aime bien quand même des images où il y a un peu le défaut. À l'époque, bon, à l'époque du fleuve noir, il y avait des couvertures mais juste hallucinantes. Quoi, parce que, mais en même temps, c'était une espèce de foisonnement. Où on sentait une espèce de vivier créatif intense. Et aujourd'hui, honnêtement, quoi, que ce soit Prespo, Ken Brajlon, La Talente aussi par certains aspects, on a l'impression que c'est le même illustrateur qui bosse partout. Quoi. Et ça fait quand même un petit peu peur, parce que ça c'est l'univers du jeu vidéo aussi, hein, parce que ils viennent souvent du jeu. Bon, après, Folio, par exemple, c'est une autre problématique, c'est que vu que les éditeurs parisiens aujourd'hui, c'est juste deux couples et un ami.
Trois,
ils tiennent à peu près. Et bon, moi, je vois bien les amis qui bossent avec eux, je sais pourquoi ils bossent avec eux. Moi, je bosse pas avec eux. Quoi. Mais bon.
En fait, après vos expériences, combien d'images pour une expression? Combien il va avoir comme image dans votre tête?
Ah, pour faire une illustration, oui. Pour bah, généralement il n'y en a qu'une en fait. Non, généralement je vais tourner un petit peu autour. Voilà, vous tout à l'heure vous parliez de tourner autour. Voilà, moi je fais un peu je tourne autour de ma niche comme ça avant de m'asseoir et.
Il pisse au pied du lit.
Donc voilà, et l'endroit où je vais pisser, j'ai l'air.
Non mais. Est-ce qu'il y a un petit conducteur?
Alors, quand il y a une image qui sort dans le texte, dans le courant du texte ou à la fin du texte, hein, souvent je lis le livre, je laisse reposer quelques jours, et puis quand il y en a une qui sort, c'est souvent la bonne en fait. Après, il y a des textes où il n'y a pas d'image qui sort. Là, il faut sortir les rames. Quoi. Et bon, j'ai fait pas mal d'images aussi qui ne correspondaient pas au texte. Des textes à l'époque de Robert Howard, par exemple. Quand je fais toute la série de Robert Howard, bon, ben, y a un événement de ma vie privée qui correspond à peu près à une ambiance du texte. Alors, ben, je vais me servir de cet événement-là pour le mettre en scène.
Dans Robert Howard,
par exemple. Mais bon, la série fonctionne quand même, il me semble, malgré tout, tu vois, mais je me sers souvent, voilà, quand je trouve pas dans le texte quelque chose qui m'inspire, ça m'arrive pas que dans Robert Howard, malheureusement, bah, du coup, je vais me servir de ma vie privée pour trouver quelque chose qui fasse écho à ça. Quoi.
Vous serez jamais coincé, c'est ça que je voudrais savoir.
Oui, c'est arrivé quand même, c'est arrivé, je vais pas citer les auteurs, mais c'est quand même arrivé. J'ai fait très peu de couverture en jeunesse, par exemple. Parce que souvent, ça me tombait des mains. Il y a quand même quelques textes. Bon, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué, qui sont restés. Il y a eu Eric Simard, il y a eu Nathalie Legendre, et il y a eu Pierre Montero ensuite. Qui m'a montré un aspect de la littérature jeunesse que j'avais un petit peu rejeté en me disant, bon, c'est pas la peine. Quoi. Mais il y a quand même d'autres textes où on est sec. On est sec. La fin du livre, et là c'est quand même plus dur.
Puisqu'on est sec, c'est grand apéro, je vous propose d'arrêter là. Vous allez pouvoir les retrouver en dédicace en bas, là-bas. Et puis la prochaine conférence, ce sera à 14h avec le mal élémentaire. Voilà. Merci à vous, puis merci à vous.
Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Bravo.